Yeah, okay, let's go.
Entre les pages. Sur Radio G. Entre les pages champagne pour cette émission de l'année 2019 qui se met au diapason des fêtes qui approche dans la rue des cris, des sifflets, des fumigènes qui disent le mécontentement, la colère et la frustration et des trains qui ne roulent pas et des infirmières usées avant d'avoir commencé leur métier et des jeunes qui regardent ébahis un monde qui se démantèle sachant depuis longtemps que de toute façon ils en ont été exclus et des vieux, des seniors, des retraités, qui regardent ébahis un monde qui se démantèle, convaincus d'avoir tout fait pour le préserver. Et moi je vous parle de champagne, boisson somme toute décadente d'un monde dérisoire que peu de ceux qui sont dans la rue en ce moment ont les moyens de s'offrir. Alors, je raye le mot champagne, mais je garde les bulles. Ce sont plein de petites bulles qui vont pétiller dans vos oreilles tout au long de l'heure qui va suivre. Des petites bulles, mais quelles bulles ? Nous sommes allés avec Inès au 20e salon en GBD, les 7 et 8 décembre dernier, et nous en avons rapporté plusieurs interviews que je vous propose de vous faire partager. Vous l'entendrez, ces bulles-ci sont très éloignées de cette boisson de fin de règne. Pas de joyeuses sarabandes coiffées de ridicules chapeaux de carton, pas de cotillons jetés à poignées en une fête dérisoire, juste de magnifiques planches qui vous offrent un ticket pour l'imaginaire. Et pour commencer, je vous offre l'interview d'Eliott Rimbaud, prix première bulle du festival pour sa BD Les tambours de Srebrenica. J'ai devant moi, en face de moi, Eliott Rimbaud qui vient d'avoir le prix première bulle. Bonjour Eliott Rimbaud.
Bonjour.
Vous venez d'avoir ce prix pour une bande dessinée assez étonnante, tout en noir et blanc. Déjà, est-ce que vous pouvez nous en rappeler le titre, s'il vous plaît ?
Alors, ça s'appelle Les tambours de Srebrenica.
Vous écrivez une bande dessinée sur la guerre en Yougoslavie. Toujours, on remonte un peu dans le temps. Vous venez d'où ?
Moi, je suis originaire d'Angers. À la base, j'ai fait mon lycée ici. J'ai fait mes études après à Bordeaux et je suis revenu dans le coin pour dessiner la BD. Donc voilà, j'ai fait les tambours de Srebrenica face au Loire pendant 2 ans. C'est la fin d'un long processus créatif et ça a été une très belle aventure. Et on est hyper heureux et surpris d'avoir reçu le prix avec Philippe. Je l'ai eu au téléphone tout à l'heure et très fier.
Alors, c'est une première BD. Je vais vous poser déjà une question très indiscrète et vous avez le choix de ne pas répondre. Vous avez quel âge ?
J'ai 27 ans.
Vous écrivez une BD sur la guerre en Yougoslavie, c'est-à-dire que vous aviez 2 ans quand les événements se sont produits. Qu'est-ce qui peut animer quelqu'un qui n'a pas connu l'événement de travailler cette question-là ?
Alors moi je suis né une semaine en 92, une semaine avant le début de la guerre en Bosnie, en ex-Yougoslavie. En fait le projet s'est initié surtout avec la rencontre avec Philippe Lobjoie, donc qui est le co-auteur et qui était correspondant pendant la guerre en Bosnie, qui a couvert le siège de Sarajevo et beaucoup de batailles pendant toute la durée de la guerre, entre 92 et 95. Et qui a une expérience très étendue du conflit et qui a une expérience aussi en tant que reporter de guerre pour avoir couvert l'Afghanistan, la Birmanie et d'autres terrains de guerre. Il m'a dit qu'il avait l'intention de travailler sur ce livre-là qu'il avait publié en 2003 en tant que roman et qu'il voulait peut-être faire une réédition avec un livre illustré. Voilà, on s'est rencontrés, on ne savait pas exactement ce qu'on voulait faire. 4 ans plus tard, moi je faisais mes études en journalisme à ce moment-là et pendant 2 ans après mes études, J'ai travaillé sur la BD, donc voilà, qui est parue au mois de mai de l'année dernière. L'intérêt que j'avais sur ce sujet-là, moi je venais de naître, donc j'étais pas du tout conscient de ce qui se passait. C'est quelque chose que j'ai découvert de manière précise, on va dire, en travaillant sur ce livre, et ça m'a paru aberrant et extraordinaire que le plus gros massacre sur le territoire européen depuis la Seconde Guerre mondiale se soit passé en 95 à Srebrenica, et que les gens de ma génération ne connaissent pas Srebrenica, ne savent pas réellement ce qui s'y est passé. Et il y a un vrai manque d'informations. Il n'y a pas de travail de mémoire autour de ça. C'est en rapport aussi avec les conditions dans lesquelles le massacre s'est opéré, parce qu'il y avait les casques bleus sur place et la communauté internationale qui surveillait l'enclave parce qu'elle était sous protection des casques bleus. Et en fait, c'est un peu la mauvaise conscience de l'Europe, parce que voilà, ça nous renvoie à notre propre lâcheté aussi, et à une responsabilité énorme de la part des dirigeants des institutions internationales et de l'ONU. Ça aurait pu être un massacre qui aurait pu être évité dans la mesure où ils savaient exactement ce qui allait se passer.
On vous sent très habité par ce sujet. Enfin, il suffit de vous poser une question pour que tout de suite la machine se mette en route. Ce qui vous anime, c'est cette absence de mémoire, ou c'est une révolte par rapport à l'absurdité des conflits qui peuvent se dérouler en Europe ?
Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, parce que c'est un conflit qui est un peu à la croisée de beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a une part qui est religieuse et confessionnelle, parce que quand Mladic rentre dans la ville de Srebrenica, il dit je prends la ville de Srebrenica en souvenir de la défaite, d'une défaite du 14e siècle vis-à-vis de l'Empire ottoman. Mais il y a une partie sociale aussi, et quand Milosevic prend le pouvoir en Serbie, il joue justement à exacerber en fait la fracture identitaire et les dissensions pour accéder au pouvoir. Et donc, pour moi, ça a été un réel défi de représenter ce génocide, sachant qu'il n'a jamais été mis en image avant. Et du coup, ça a été un gros travail de recherche. Je suis allé sur place au moment des commémorations annuelles du massacre de Srebrenica en 2018, justement pour voir un petit peu l'atmosphère de la ville, découvrir, aller me rendre sur les différents lieux où les exécutions ont eu lieu. Parce qu'on savait qu'on n'avait pas le droit, on n'avait pas le droit à l'erreur, parce que ça engage des réelles victimes. Il y a plus de 8000 personnes qui ont été exécutées en l'espace de 3-4 jours, et à partir du 14 juillet, à 2 heures de Paris. Et la ville de Srebrenica, c'est toujours une ville fantôme.
Mais vous dites, moi-même, je suis un peu surpris de cette absence de mémoire. Pourtant, vous l'inscrivez sur la dernière page de votre bande dessinée, puisque vous mettez le message de Boutros-Rali, qui dit, finalement, demain, on aura tout oublié. Donc, Boutros-Boutros-Rali, secrétaire général de l'ONU à l'époque, dessine déjà ceux qui vous révoltent, finalement.
C'est ça qui est terrible. Et Florence Hartmann, qui est une journaliste du Monde, qui a enquêté sur Srebrenica pendant des années et a sorti des informations terribles sur la responsabilité de l'ONU, et elle a appelé son bouquin « Le sang de la réelle politique », parce que c'est ça, c'est de la réelle politique, c'est du pragmatisme et c'est la lâcheté diplomatique. Et c'est ça qui est terrible, c'est une population qui gênait tout le monde. Et moi, je vous invite à lire « Le sang de la réelle politique » si vous voulez un peu vous plonger dans les ressorts diplomatiques de ce drame.
Il y a un choix graphique dans le livre, c'est un noir et blanc déjà, tout est traité en noir et blanc. Qu'est-ce qui vous conduit à choisir ça, peut-être plutôt que la couleur, enfin plutôt qu'une mise en couleur ?
Donc quand j'ai commencé à travailler avec Philippe sur ce projet-là, je lui ai fait des propositions graphiques, donc voilà, de dessins, et je me suis orienté assez instinctivement vers le noir et blanc. L'idée, c'était d'avoir un rendu qui s'apparente un peu à la photographie de guerre, d'avoir du grain. Et Philippe vient de la télé, il était JRI quand il a commencé sa carrière de grand reporter, donc on a la même culture de l'image. Moi, j'ai fait une spé en journalisme de JRI, donc pareil, pour apprendre à tourner, donc on parlait de cadrage et tout, et l'idée c'était justement de faire du noir et blanc, et il me semblait que ça collait pas mal avec le sujet sur l'atmosphère, tout en nuances de gris.
C'est une première BD ? C'est un premier prix, ce qui est quand même bien. J'allais dire un joli coup, mais ça me rend mal à l'aise de dire un joli coup sur une BD qui parle de Srebrenica. Est-ce qu'il y a déjà une autre aventure dans les cartons ?
Je réfléchis, je vais continuer à avancer dans cette voie. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le journalisme en bande dessinée, de lier le dessin avec le journalisme. Donc j'ai un projet de reportage dessiné, d'enquête dessinée. Dans les cartons, je suis en train d'étudier la chose. Ce sera plus sur un fait d'actualité, pas d'archives pour moi, mais vraiment sur un fait d'actualité important.
Pour travailler avec des revues comme 21 par exemple ?
21, ouais, ce serait une... j'aimerais bien la revue dessinée aussi potentiellement. J'avais fait mon mémoire à l'IEP sur la revue 21, sur la revue dessinée au moment où elle se lançait, justement pour étudier un peu aussi sur le plan théorique comment ils approchent l'information et comment ils la mettent en récit par la bande dessinée. Et c'est des outils formidables, et c'est eux qui ont ouvert la voie aussi pour les lecteurs pour s'intéresser au réel et pour comprendre qu'on peut s'informer par le voie de la bande dessinée. Et c'est je pense, on commence tout juste à explorer un peu toutes les possibilités qui s'offrent à nous à ce niveau-là.
Toutes mes félicitations pour ce premier prix, pour cette première BD. Et puis, je vous souhaite un bon festival. Au revoir.
Au revoir.
Sans transition, je vous propose de passer d'une guerre contemporaine avec Elliot Rimbaud à l'univers foisonnant et protéiforme de l'auteur bien connu ici, Olivier Suppiot. Je réalise... je ne vais pas dire un rêve, mais je réalise quelque chose que je souhaitais en arrivant à Angers, alors que ça fait à peine un an que je suis ici. J'avais déjà lu les bandes dessinées d'Olivier Suppiot, et quand j'ai su qu'il était d'Angers, je suis parti dans une quête pour essayer de le trouver. Mais je n'animais pas d'émission à l'époque. Depuis le mois de septembre, j'anime cette émission Entre les pages. Et donc, j'ai trouvé la clé d'entrée qui me donne un passe-droit partout. Et je réalise en fait mon rêve, c'est celui de rencontrer Olivier Suppiot. Nous sommes au bar, il y a du brouhaha. Et je pense qu'on va être importuné parce que depuis qu'on est là, Olivier n'arrête pas de dire bonjour à plein de gens. Donc, on risque d'être embêté dans cette interview. Mais ce n'est pas très grave, c'est le jeu. Bonjour Olivier Suppiot, comment allez-vous ce dimanche matin ?
Ça va très bien, très content d'être à Angers BD pour le 20e numéro.
En plus, vous habitez pas loin.
Oui, je suis pas très loin d'Angers, je suis même né à Angers, donc c'est vrai que c'est un festival particulier pour moi. Donc voilà, très content de venir à ce salon pour la 1e fois, je ne sais pas exactement combien de fois, mais pas mal de fois, oui.
Alors, pour moi, Olivier Suppiot, en fait, c'est très étrange. C'est une bande dessinée. Et Olivier Suppiot n'écoute pas ce que je lui dis. Il fait des grands signes. C'est une bande dessinée. C'est La Patrouille des Invisibles.
D'accord. Bah, ça fait plaisir déjà par rapport à cet album. Parce que c'est vrai que pour moi, cet album a été sans doute le plus dur à faire, le plus dur à réaliser. C'est un album parmi quelques-uns. Parce que j'en ai réalisé une bonne trentaine maintenant. Mais c'est vrai que La Patrouille des Invisibles, ça a été très particulier parce que je me remettais, si je puis dire, à refaire un livre adulte sur un thème effectivement passionnant, qui est la guerre de 14-18, avec une envie vraiment aussi graphique, une envie d'aborder le thème avec une technique particulière. Pour moi, c'est un album qui a vraiment été important, d'abord par la difficulté de la réalisation, c'est-à-dire que c'est quand même un album où j'ai failli arrêter 2 fois pendant la réalisation, ce qui ne m'était jamais arrivé. Pourquoi arrêter ? Parce que je n'étais pas satisfait de ce que je faisais. Donc j'ai recommencé plusieurs fois les planches. Je pense que ça venait du fait aussi que le sujet me parlait. Il y avait la difficulté d'avoir quand même une forme de devoir de mémoire. Et en même temps, c'était une fiction. Donc il y avait ce souci d'être dans l'équilibre entre raconter une histoire fictionnelle et en même temps être assez proche de la réalité quand même. Donc après, moi j'ai plutôt tendance à dire que La Patrouille des Invisibles, c'est plus un conte finalement sur 14-18.
Ça j'entends bien, et moi j'ai été extrêmement sensible dans cette bande dessinée. Pour moi, quand j'ai lu cette bande dessinée particulièrement, mais on reviendra sur d'autres, il y avait dans mes références graphiques Francis Bacon, peut-être dans La Noirceur. J'imagine que ça peut flatter, enfin, si je fais des références comme ça.
Évidemment, mais oui, en plus, moi, je suis très sensible à la peinture. Ça me parle toujours, effectivement, la peinture. Je pense que ça se ressent dans mes bandes dessinées, que ce soit adulte ou jeunesse. J'ai toujours besoin d'avoir un rapport à la couleur qui est particulier. J'ai beaucoup pensé à Autodix aussi, forcément. Je me suis pas mal documenté sur des illustrateurs de l'époque. Je pense à Flaming, Scott... Et c'est vrai qu'il y avait aussi une grosse difficulté, c'est qu'en abordant le thème de 14-18, forcément, on pense au travail formidable de Jacques Tardy sur cette période. Et c'est vrai que quand on commence à travailler, c'est dur, parce qu'il faut aussi amener quelque chose de personnel. Je pense que c'est différent sur 39-45, parce que dans 14-18, il y a une forme de... On a presque l'impression que c'est la rencontre entre le Moyen-Âge et la guerre moderne. J'ai notamment en tête une image d'un soldat allemand, un lancier allemand, qui est sur un cheval et qui a un masque à gaz. Et ça, vraiment, on a cette impression de deux périodes qui se télescopent avec une violence incroyable et qui, en même temps, est dans le lancement de l'histoire. Donc c'est ça que j'ai trouvé très intéressant aussi en travaillant sur ce sujet.
C'est étrange que vous parliez d'Autodis. Il y a moins d'une semaine, j'étais au musée Unterlinden à Colmar, où ils présentent quelques œuvres d'Autodis, dont ses travaux sur la guerre, qui sont effectivement plutôt... ouais, peut-être on peut dire bouleversante, mais bien plus que bouleversante, c'est autre chose, ça éveille autre chose en nous, enfin ça remue des choses très intérieures. Dans votre travail, il y a deux parties. Il y a effectivement le travail, on va dire, jeune public, et puis il y a le travail adulte, et c'est vrai que, enfin le travail pour adulte, je ne sais pas si ça veut dire grand-chose, mais peu importe, le travail pour adulte, moi c'est sur celui-là qui m'intéresse plus. Je suis, depuis que j'ai plus d'enfants jeunes, le jeune public ça m'intéresse toujours, mais bon, j'y suis moins sensible. On retrouve effectivement dans, La Dérisoire ou Féroce, là aussi, il y a un travail qui est quand même très différent au niveau graphique. Hein, c'est pas du tout la même approche. Comment vous expliquez cette différence d'approche graphique, ces choix graphiques que vous faites ?
Ben parce que je pense que j'essaye à chaque fois de coller à ce que je raconte. Là, par exemple, typiquement sur 14-18, mon gros problème, c'est qu'à chaque fois, j'étais pas content des planches parce que j'avais besoin de les salir. Parce que je trouvais que je faisais un travail trop propre. Ça me gênait parce que ça me faisait penser aux films d'Hollywood quand il y avait des films de cow-boys et que les cow-boys, ils étaient super propres. On avait l'impression que leur chemise était repassée il y a 5 minutes ou même toute cette période aussi de films de flibustiers où les pirates, ils sont propres comme tout. Et à un moment donné, je ressentais ça sur mes dessins. Je me suis dit, c'est pas possible, ils peuvent pas. On doit sentir la terre, on doit sentir la sueur, on doit sentir... quelque chose presque d'organique, quoi. Et du coup, il a fallu que je fasse un travail de salir. Enfin, j'avais envie de salir, en fait, d'une certaine manière, pour être au plus proche des tranchées. Enfin, c'est ce qui m'intéressait dans le livre, quoi.
C'est ce que, effectivement, on a l'impression que Tardy fait du premier coup. Salir, c'est son travail.
Ouais, mais je pense que il y a personne qui a aussi bien incarné ce sujet que lui. C'est tellement ancré dans son travail. Enfin, moi, je suis toujours. Alors, il y en a d'autres qui ont fait des choses magnifiques aussi sur 14-18. Hein. Je pense à notamment Chris et Maël. Et c'est vrai que le fait de passer de livre jeunesse à livre adulte, à chaque fois, il faut que aussi je me remette en question sur ma manière d'aborder les sujets. Et c'est ce qui est intéressant, je trouve, dans la bande dessinée, c'est que moi, je ne me vois pas être sur un style linéaire.
Aujourd'hui, vous êtes au festival. Est-ce que vous défendez une bande dessinée particulière pour ce festival ?
Oh ben, à vrai dire, je défends toutes mes bandes dessinées toujours. Hein. J'ai aucune. On a tendance aussi à présenter la nouveauté. La nouveauté, moi, pour moi, en ce moment, c'est le dernier livre qui est sorti, c'est Lily Crochette, le tome 5, que je réalise avec Joris Chamblin aux éditions de La Gouttière. Je suis très content d'être aux éditions de La Gouttière parce qu'ils ont vraiment une démarche sur la bande dessinée jeunesse. Pour moi, c'est vraiment une maison d'édition de cœur sur la jeunesse. Il y a vraiment plus qu'un travail, c'est vraiment une mission qu'ils se sont donnée pour travailler auprès des enfants, et notamment des très jeunes lecteurs. Donc c'est ça que je trouve très intéressant. Donc voilà. Après, non, je défends toujours tous mes livres. Ouais.
Eh ben, je vous remercie pour cette rencontre. Je vous souhaite un excellent festival, plein de signatures et bonne route.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Après Olivier Suppiot, je dirais presque le grand Olivier Suppiot, c'est au tour du président du festival de passer au grill. Mais le président, il est bien connu sur votre radio préférée. Ce n'est ni plus ni moins que Seb, l'animateur de l'émission La Case de Seb, le lundi de 19h à 20h. Bonjour. Alors, toujours dans la case, Seb ?
Toujours dans la case, effectivement.
Alors on est voisins, finalement je viens de découvrir qu'on était voisins de studio, ce qui est étonnant, passer par se retrouver dans le Palais des Congrès d'Angers pour se rendre compte qu'on est voisins de studio. Pour cette 20e édition, qu'est-ce qui est à noter ou qu'est-ce qui est remarquable dans cette 20e édition ?
Alors déjà, simplement le fait de retourner sur le centre des congrès, qui était notre lieu de cœur sur lequel nous sommes revenus après 2 ans d'exil. Le fait qu'on arrive à faire un festival qui fonctionne malgré tous les événements qui ont pu émailler le territoire sur ce week-end. Un escape game pour enfants créé pour l'occasion, qui est un événement assez intéressant. On peut aussi parler effectivement des prix qui ont été décernés. Le prix Première Bulle qui a été décerné à Elliot Rimbaud pour Les Tambours de Srebrenica, l'adaptation du roman de Philippe Lobjoie. Et puis les 2 prix des bibliothécaires du département de Maine-et-Loire qui ont été décernés à Manard Votert pour le Yasmina et les Mangeurs de Patates et à Vincent Perriot pour Négaliode.
Alors effectivement, on est devant un prix qui est quand même, enfin une succession de prix qui est étonnante, je ne sais pas, mais en tout cas rassurante, parce qu'on est sur trois axes de la bande dessinée qui sont complètement différents, enfin trois orientations complètement différentes. Lequel de ces trois prix retient particulièrement votre attention ?
Ah, c'est une question un petit peu dure, parce qu'en fait, chacun de ces 3 albums sont des albums qui m'ont vraiment touché, qui ont développé des thématiques qui sont toutes très importantes et efficaces, que ce soit Négaliode avec l'axe de la science-fiction pour parler de thématiques actuelles et écologiques, que ce soit Yasmina et les Mangeurs de Patates, qui est un peu plus ludique sur l'éducation alimentaire, et puis aussi toute une façon de voir comment on peut envisager l'agriculture, et puis effectivement aussi Les Tambours de Srebrenica qui est aussi une façon de se rappeler d'événements un peu sombres et peut-être de faire l'éclairage sur notre propre histoire pour mieux vivre notre futur. Donc on est toujours sur cette thématique du futur en fait, sur ces 3 albums. Alors dire que j'en ai préféré un plus que l'autre, je ne vais pas pouvoir le faire.
Est-ce que quand on prépare un festival comme ça, est-ce qu'on reçoit, on a une connaissance bien évidemment des auteurs que l'on va inviter, mais est-ce que vous aviez reçu en amont, en service de presse, ces bandes dessinées ?
Alors, pas dans le cadre du festival en fait. Dans le cadre de l'activité que j'ai avec Radio G, effectivement, ça fait partie un petit peu du boulot. Et du coup, ça me permet de voir certains albums. Mais la sélection, elle n'est pas faite vis-à-vis de ça. Elle est vraiment faite vis-à-vis d'une veille faite par tous les membres de l'association sur les sorties et les parutions au cours de l'année. Et du coup, on fait une sélection pour essayer d'avoir le plateau le plus hétéroclite, mais tout en gardant une certaine homogénéité pour qu'on puisse satisfaire tous les publics. On va avoir des choses de jeunesse qui vont s'adresser aux 4-5 ans, mais on va avoir des choses également beaucoup plus adultes qui vont ne plaire qu'à un public, on va dire, d'initié de bande dessinée, sans que ce soit péjoratif pour le...
Vous avez fait pour décerner les prix, vous avez fait une sélection. Est-ce que malgré tout, est-ce que vous êtes surpris par les prix qui ont été donnés ?
Non. Je ne suis pas surpris parce que ce sont des prix qui sont très cohérents. Après, moi je ne fais pas partie du comité de lecture, donc j'essaie de rester le plus neutre possible sur ces prix-là. Mais effectivement, ce sont des prix qui méritent, qui sont extrêmement efficaces, aussi bien dans les thématiques développées que dans le travail effectué au niveau du dessin. Et il y a une cohérence qui fait que c'est une évidence que ces prix aient été décernés. Allez. Ça ne veut pas dire non plus que les autres prix, les autres albums qui étaient dans la sélection sont déméritants. Le simple fait d'être dans la sélection, déjà, montre que ça a été une attention retenue. Et je sais que la bataille entre certains albums pour arriver à gagner le prix, des fois, se joue uniquement à quelques points. Et faut pas, c'est pas parce qu'on n'a pas eu le prix qu'il faut démériter. Hein. Au contraire.
On va venir juste un tout petit moment dans le concret pour ce festival. Donc c'est malgré tout dans ce Palais des Congrès, là, c'est un endroit qui est vaste. Vous mobilisez combien de bénévoles sur cette opération ?
Alors l'association en tant que telle compte une 30aine de membres, et sur le festival en lui-même on double nos effectifs pour pouvoir faire face à la gestion globale. Donc on est 70 personnes sur l'événement du week-end.
Qu'est-ce qu'il faut souhaiter pour la 21e édition du festival Angers BD ?
Alors, je vais faire une petite pique à nos amis la mairie, mais la gratuité des centres des congrès, ce serait très bien. pour pouvoir faire pérenniser en fait le festival jusqu'au bout. Mais c'est vrai que c'est qu'on garde cette formule-là, qu'on garde une formule qui fonctionne, un public qui aime ce qu'on fait et des auteurs qui apprécient le festival. Et toujours garder cet esprit convivial et familial pour que ce soit bien pour tout le monde en fait.
Alors je vais vous remercier pour cette interview. Je vous souhaite donc le meilleur pour le Angers BD Festival 21 et le meilleur, j'ai bien compris qu'il était totalement pratique et pragmatique. Je vous souhaite une bonne fin de festival et à bientôt sur les ondes de Radio G.
À bientôt.
Entre les pages, Radio G 101.5. C'était l'interview du président du festival Angers BD. Là, je vous propose une rencontre avec un auteur un peu plus que citoyen. Il s'agit de Damien Geffroy, qui a publié Village Global chez Steinkiss. Toujours dimanche matin, toujours au festival de la BD, au 20e festival Angers BD. Et là, je suis avec Damien Geffroy, qui a rédigé, Alors, une bande dessinée qui, à mes yeux, est, je vais dire, un petit peu étonnante, mais je vais le laisser lui en parler. Bonjour Damien, ce festival se passe bien ?
Bonjour, oui, très bien, a priori, depuis hier. On passe une excellente journée d'hier et puis aujourd'hui, ça démarre bien. Donc...
Cette bande dessinée, Village Global, elle vient d'où ?
Alors, je vais, pour la situer géographiquement, on va pouvoir dire qu'elle vient de Mazé, parce que dans le sens où elle a été, la connexion entre les deux auteurs s'est faite au sein de l'atelier Kawa qui est situé à Mazé, et l'action du récit se passe aussi à Mazé.
On sait d'où elle vient géographiquement, mais en fait, c'est un projet. Comment il est venu ce projet ?
Il est venu à l'initiative de David Lessault, le co-auteur, qui est en fait chargé de recherche au CNRS et spécialiste de la question des migrations en milieu rural. Et David est venu toquer à la porte de l'atelier Kawa pour mettre un petit peu... Enfin, il avait beaucoup de choses à dire et le média de la BD l'intéressait. Donc il est venu à l'atelier Kawa qui est situé à Mazé, donc comme je disais tout à l'heure, dirigé par TM, un auteur émérite. On a aussi Olivier Supio, enfin on a du beau monde à l'atelier. Il y a aussi des jeunes auteurs moins confirmés. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Moi, j'étais justement en recherche d'un projet à illustrer. Et à l'occasion de mon congé parental, j'avais un petit peu de temps à consacrer à ça. Et ça, c'est comme ça que ça s'est fait la rencontre. En fait.
C'est une première BD ?
Alors pour moi, oui, pour David aussi. J'ai participé à des albums collectifs, mais une première BD à compte d'auteur complet, oui.
Parce que c'est quand même une BD qui est impressionnante au niveau du nombre de pages. Enfin, il y a un énorme travail, énorme. Ça vous a pris combien de temps pour aller au bout du projet ?
Je vais répondre globalement à peu près un an, mais c'est un peu particulier puisque du coup j'ai profité du congé parental pour monter le dossier, mais une fois que la signature s'est faite, j'ai dû reprendre le travail, ce qui fait que elle a été réalisée le soir en fait, après la journée de boulot, une fois que les enfants étaient couchés, et ça a un petit peu allongé sans doute la durée du travail, mais, donc un an, grosso modo un an. Donc c'est vrai qu'il y a 156 pages, c'est 158, je sais pas. Relativement conséquent comme travail, oui.
C'est un projet, moi, que je considère comme particulier. Alors, on va lui attacher le mot de citoyen, par exemple, hein, mais comment pourrait-il en être autrement sur un sujet ? Ça nécessite un accord intellectuel ?
Disons que David et moi, on est sur la même longueur d'onde, c'est vrai, par rapport à ces questions-là, mais c'est des valeurs que je pense on partage avec la plupart des gens. Oui, on met en avant... la solidarité qu'on peut trouver au sein d'un petit village de campagne. On critique sans trop de méchanceté, je pense, mais assez objectivement, le fait que certains ont parfois du mal à accueillir les gens qui viennent de... Enfin, qui, voilà, la différence d'une manière générale. Mais on n'a pas voulu stigmatiser non plus forcément ces gens-là. Souvent, c'est par manque d'informations et c'est un petit peu ce qui se passe avec le personnage principal d'ailleurs. C'est qu'il est plutôt d'un bord au début du roman et puis finalement, à mesure qu'il prend conscience de ce qu'il y a derrière le problème des migrants, son point de vue change.
Alors, moi, c'est ce que je note dans la bande dessinée. C'est en fait, effectivement, c'est pas didactique. Enfin, c'est pas... manichéen, pardon. C'est pas, voilà, il n'y a pas des bons et des méchants. Il y a effectivement une vision très empathique sur l'ensemble des personnages. Vision empathique d'ailleurs qu'on retrouve dans le graphisme. Enfin, il me semble que le graphisme participe de cette empathie-là. C'est un graphisme très, très doux en fait. D'où vient cette technique graphique ?
Alors là, c'est une très bonne question. Moi, je pense que je dessine comme de la seule manière que je sache faire. Mais c'est un commentaire qui est souvent revenu, ouais, effectivement. Donc peut-être le côté un petit peu caricatural. Donc le dessin est assez réaliste, mais un petit peu plus caricatural quand même. Donc c'est vrai que ça peut donner peut-être des expressions un peu plus vivantes au personnage, je ne sais pas. C'est peut-être dû aussi au fait qu'il n'y a pas d'ancrage encre. Donc ça, on sait que dans les dessins un peu réalistes, souvent ça a tendance à aplatir le dessin, enfin lui enlever un peu de son côté vivant. Et là, le crayonné, j'ai gardé le crayonné, donc c'est peut-être ce côté aussi crayonné qui fait que ça, c'est peut-être un petit peu plus vivant, je ne sais pas.
En tout cas, c'est ce qui ressort de la bande dessinée. Alors après, un projet comme ça, qui prend du temps, qui doit monopoliser beaucoup l'esprit quand on est dans la réalisation, est-ce qu'il y a aujourd'hui, maintenant, d'autres envies, est-ce qu'il y a des projets qui se dessinent là ?
Oui, alors, pour le coup, certains projets n'ont absolument rien à voir. Donc, au sein de l'atelier, par exemple, on est avec Olivier Supiot. Je travaille sur des planches qui sont publiées dans Fluide Glacial en ce moment, tous les mois. Donc là, pour le coup, vraiment rien à voir. Et je travaille aussi sur un projet de roman graphique autour des tueurs en série. Voilà, donc là, pour le coup, rien à voir non plus. Mais avec David, on a... l'ambition, alors c'est rien, c'est une projection assez lointaine pour l'instant, mais sans doute une suite d'une manière ou d'une autre, quelque chose à suivre dans la même veine, sans doute, oui, parce qu'on a vu qu'on a eu un écho relativement positif, et puis même au niveau de l'éditeur, il était satisfait, donc pourquoi pas peut-être faire imaginer une suite, je ne sais pas encore sous quelle forme, mais voilà, sans doute.
En tout cas, merci pour cet éclairage sur cette bande dessinée. Moi, je recommande, enfin, vraiment, je recommande sa lecture parce qu'elle est, d'abord, elle est agréable. C'est une bonne bande dessinée. C'est plutôt un bon roman graphique plutôt qu'une bonne bande dessinée. Et puis, on est dans l'actualité, non pas dans l'air du temps, mais dans l'actualité. Et je pense que ça fait beaucoup de bien dans le temps présent de rester dans cette actualité. Et pour conclure, c'est à Tony Emerio et Pauline Casters d'avoir le mot de la fin. Ils étaient présents sur le festival pour leur série Félicitrouille et la chasse au trésor qui portait le même nom. Je suis en compagnie de Pauline Casters et Tony Emerio, donc un binôme qui produit Félicitrouille, mais pas que. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, on vient d'avoir une petite discussion autour d'un escape game, donc un anglicisme, mais en fait qu'on traduit par une chasse au trésor. L'idée est venue de qui ?
Moi, c'est moi qui ai eu l'idée en premier, parce que c'est une grosse appétence pour les escape games, déjà en tant que joueur. Et depuis que j'en ai fait un il y a longtemps, depuis que je sais que ça existe, j'avais très envie d'en faire un. Et je me suis dit que faire une série... Parce que Félicitrouille, c'est une petite enquêtrice, donc faire une série qui se base sur des enquêtes, c'était idéal pour décliner ça en chasse au trésor.
Et donc, Pauline, pour vous, cette chasse au trésor, elle va aller jusqu'où ?
Elle va aller jusqu'où ? L'idée, c'est comme l'a dit Tony, en fait, c'est vraiment de décliner en escape game et de l'emmener jusqu'au Grand Théâtre, puisque l'année prochaine, si tout va bien, entre février et avril, il y aura une exposition donc sur différentes séries que j'ai pu faire, et notamment sur Félicitrouille. Donc on y retrouvera la chasse au trésor.
Alors, il y a Félicitrouille, et Félicitrouille, c'est un projet que vous portez tous les deux en commun.
Oui, tout à fait. Moi, je suis au dessin, et puis au scénario, il y a Tony qui a les idées. Et en fait, initialement, je dessine beaucoup de jeux. C'est une de mes principales activités d'illustratrice. Et donc, Tony s'est dit, pourquoi pas profiter de ces jeux-là pour faire une série, puis mettre quelques jeux dans la série. Quelques-uns, voire pas mal.
Donc, l'escape game, c'est quelque chose qui est à la mode. La chasse au trésor pour les enfants, c'est peut-être, je ne dirais pas que c'est novateur, mais... c'est une nouvelle proposition. Comment on part du principe de l'escape game pour adultes pour arriver à Félicitrouille en escape game, en chasse au trésor, je vais le dire, c'est plus simple.
Ça, c'est parce que moi, j'écume les festivals depuis quelques temps déjà. Donc évidemment, il y a des adultes et des enfants. Et à chaque fois, les enfants s'ennuient dans les festivals. Et moi, gamin, j'aurais adoré qu'on fasse ce genre de proposition. Donc voilà, je me suis positionné comme si j'avais 5 ans. Et je m'étais dit, qu'est-ce que j'adorerais avoir dans un festival de BD plutôt que des expositions de planches. Bon, c'est des cadres accrochés au mur. Donc c'est vrai que quand on est petit, ça n'est pas forcément très intéressant. Donc ça, c'est spécialement fait pour eux. Et c'est vrai que jusqu'à l'heure, les escape games s'adressent plutôt aux adultes, aux adolescents éventuellement, mais jamais aux enfants. Donc voilà, on creuse dans cette voie-là parce que je pense qu'ils ont aussi droit à leur escape game. Il n'y a pas de raison.
Vous êtes un couple, mais pas un vrai couple. Hein. Vous ne vivez pas ensemble. Vous travaillez ensemble sur un projet, mais vous avez chacun vos projets particuliers. Pour vous, Pauline, vous travaillez, vous êtes illustratrice. Quels sont vos projets en termes de BD? Vous avez réalisé quoi en termes de BD?
Alors en fait, en termes de BD, j'ai plusieurs albums qui datent un petit peu maintenant, puisque j'avais une petite série autour d'une petite vache qui s'appelait Pissenlit, qui était éditée aux éditions Geste Édition, la Geste maintenant. Il y a eu 2 tomes, mais ma série plus récente, en fait, qui a été pas mal développée autour d'Angers, c'est Joachim, le petit angevin. Alors, c'est pas vraiment de la bande dessinée, c'est plutôt du livre illustré, mais avec une thématique angevine. C'est vraiment la série la plus récente, je veux dire, sur laquelle j'ai travaillé et je travaille encore.
Et qui s'adresse à un public de quel âge ?
C'est aussi pour les petits, puisque moi, je travaille que pour les petits. Donc, quel âge ? On va dire que mes premiers lecteurs, ils ont 3... Enfin, ils ont... En tant que lecteurs, ils sont plus grands, mais on leur lit le livre à partir de 3 ans parce que c'est des dessins qui représentent la ville. Donc les enfants reconnaissent rapidement. Et puis je pense que jusque 10 ans, j'ai des lecteurs jusque 10 ans, voire des plus grands. J'ai un papa et sa fille qui viennent me voir tous les ans. La fille, elle doit avoir une 30aine d'années maintenant. Mais bon, voilà, c'est plus généralement entre, on va dire, 3 et 10 ans.
Et vous, Tony, donc là, on parle de jeune public, mais vous n'êtes pas que spécialisé dans le jeune public.
Non. Moi, j'ai plusieurs albums, plusieurs séries à mon actif. Et voilà, ça oscille entre l'adulte, notamment avec Sticky Pants, l'adulte confirmé, parce que c'est interdit aux moins de 18 ans. Drunken George, qui est sorti très récemment avec un autre angevin, Dominique Enbeau, qui raconte les aventures d'un cow-boy alcoolique. Donc là, encore une fois, on s'adresse plutôt aux adultes. J'ai une autre série jeunesse avec Michael Roux, qui n'est pas angevin, mais qui est chinonais, donc on n'est pas très loin, qui là s'adresse aux enfants. Et Laboratoire, qui encore une fois s'adresse plus facilement aux adultes. Et on a un projet pour la fin de l'année, qui est en financement participatif actuellement et qui devrait sortir en 2020 avec Boris Boselin, un autre angevin, on travaille local, qui là, pour le coup, s'adressera aux adultes. Ouais. C'est un récit steampunk avec des super-héros dedans.
On est à Angers, on vient de parler d'Angevin. Enfin, il semblerait qu'il y ait un tropisme bédéistique sur Angers. Pour vous, le festival Angers BD, ça apporte quoi ? C'est quoi pour vous ? Ça représente quoi ?
C'est un rendez-vous annuel, en fait. On est invité chaque année en tant qu'Angevin, en tant qu'auteurs locaux, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça nous permet de rencontrer le public, comme chaque festival, hein, évidemment, mais là, c'est vrai que c'est chez nous, c'est plus proche, c'est plus pratique à tout point de vue, et puis on est plus facilement identifié de la part des angevins maintenant, depuis le temps qu'on est là.
Et pour vous, Pauline ?
Moi, même chose, à ne pas rater, ça dépend des années. Maintenant, effectivement, c'est l'occasion de retrouver son public local. Comme j'ai une série qui est locale, c'est des gens que maintenant, on commence à connaître, parce qu'on les retrouve un petit peu tous les ans, et puis c'est chouette de retrouver les enfants qui grandissent.
Eh bien, écoutez, je vous remercie tous les deux pour cette petite interview. Je vous souhaite un bon festival, un bon escape game, je vais essayer de le dire correctement. Bonne fin de journée à vous. Au revoir.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.
Et voilà, c'est la fin de cette série d'interviews qui a été réalisée au 20e Festival Angers BD. Et j'ai encore un regret. Je n'ai pas pu rencontrer les 2 autres auteurs récompensés pour le prix ô combien important, celui décerné par les bibliothécaires du Maine-et-Loire. Le premier, c'est Manaër Vauter, pour son livre « Yasmina et les mangeurs de patates » chez Dargaud, une BD écolo-économique, très drôle et pour le jeune public. Et puis Vincent Perriot, pour son extraordinaire BD « Négaliode », mêlant créatures préhistoriques, urbanisme de science-fiction et étranges vaisseaux spatiaux. Je n'ai pas de mots pour qualifier cette BD. Si vous aimez la BD, j'ai bien dit, si vous aimez la BD, vous n'y résisterez pas. Je vous propose une pause musicale et je vous offre une exclusivité, une chanson du dernier album de Jacques Bertin, pas encore dans les bacs. Il y a des voix comme ça, continuellement émouvantes. Celle de Jacques Bertin m'accompagne depuis plus de 40 ans et pour moi, la magie fonctionne toujours. Je le salue très amicalement.
À force de solitude, j'ai acquis l'art de la mer. Sous toutes les latitudes, je trompe les vents amers. À force de solitude, la grisaille, le jour vert, j'ai appris la mansuétude, j'absous à tort à travers. Je pardonne aux médiatiques, à l'important, aux gagneurs, à la guerrière abolique qui m'a défoncé le cœur. Aussi pardonner à celle qui, s'amusant comme au bal, d'une gifle de son aile, me fit pourtant tant de mal. J'ai appris à monter tout seul, parler tout seul, chanter tout seul. Dans la montagne stérile, choisis la voie difficile, respirez seul comme un grand, le désert mais comme un gant. Appris à forcer les lignes, leur faire entendre passion, oui, ma chanson est ma vigne, mon silence est ma maison. Ne me cherchez plus en ville, je suis ailleurs pour longtemps. Je reviendrai comme une île vers vous à chaque printemps. L'île ne vieillit jamais. Dans un verre, l'île qui dort renaît encore et encore et vous dit: je vous aime.
Comment ne pas être sensible à cette voix ? Radio G, entre les pages, 101.5. Et maintenant, c'est la chronique de bulles et de ballons de Julien Védrenne.
Raymond Coppa, l'inoubliable. Tel est le titre de cette bande dessinée parue chez Petit à Petit. Elle est de la plume de Gérard Berthelot, qui illustre par ailleurs avec talent chaque numéro du fanzine La Tête en Noir. Ici, pas question d'emprunter un style hard-boiled en noir et blanc. Pour s'approprier la vie légendaire d'un sportif d'exception, Gérard Berthelot nous immerge dans un monde en couleurs et richement documenté, accompagné de plein de unes de quotidiens sportifs ou pas. Et aussi, il faut bien le dire, de menus détails de la vie quotidienne et historique. À la lecture de ces 80 pages qui retracent la vie de Raymond Kopaszewski, on est surpris de découvrir l'homme qui est bien plus complexe que ne le laisse paraître son statut de footballeur, voire de sportif. Il a aussi tâté de la petite balle blanche et de sa consœur jaune avec talent. Naissance dans l'entre-deux-guerres à Neuilly-les-Mines, petite ville minière, apprentissage de la vie justement sous terre pour un salaire de misère où, évitant les coups de grisou, il y perdra quand même deux phalanges. Temps libre passé à adopter le ballon rond qui n'hésite pas à chipper aux occupants allemands et à voir en ce geste avec un brin de malice un acte résistant. Personnage fabuleux au geste d'artiste, Raymond Coppa est recruté par le SCO qui navigue en eau trouble au milieu du classement de la seconde division. Il n'y restera que deux saisons avant de partir pour le stade de Reims, mais il marquera la ville et sera marqué par elle. Surtout, il croisera sur les terrains de sport une basketteuse qui deviendra sa compagne de toujours, Christiane. La légende de Coppa, le footballeur, on la connaît. passage au Stade de Reims, transfert au Real de Madrid où il côtoie un certain Di Stefano, puis un certain Puskás. Le héros devient torero et le stade scande des copas à son époumoné. Retour au Stade de Reims. Entre-temps, une Coupe du Monde fantastique en 1958 en Suède où il brille en compagnie d'un certain Juste Fontaine. Il faudrait lire ou relire le chant de personne de Daniel Piccoli. Et un ballon d'or. Mais limiter la vie de Raymond Coppa à ses nombreux buts, à ses nombreuses passes décisives et à son génie footballistique serait criminel. La bande dessinée de Gérard Berthelot pose les jalons d'un homme à l'ambition modeste qui a traversé avec force une vie parsemée d'embûches. On ne reviendra pas sur ses débuts à la mine. On pourrait s'arrêter sur ses relations difficiles avec l'équipe de France et surtout avec les instances dirigeantes. On pourrait s'émouvoir de certains supporters français qui l'ont méprisé comme juste avant la mort de l'un de ses fils d'un cancer. Mais Raymond Coppa a toujours su faire face à ses détracteurs. C'est marrant d'ailleurs de constater que plus le talent est grand, plus les détracteurs sont nombreux. Deux aspects de sa personnalité m'étaient inconnus. Son combat contre ceux qui l'appelaient l'esclavage des footballeurs professionnels et sa montée victorieuse au créneau de l'UNFP, le syndicat des joueurs, et aussi son côté visionnaire sur son après-carrière, puisque c'est l'un des pères du merchandising. Pour celles et ceux qui doutent de la bonhomie de Raymond Coppa, il faut juste signaler qu'il a bâti des amitiés tenaces avec Di Stefano, Juste Fontaine et consorts, qu'il ne manquait pas une occasion de les voir, car Reims, comme à Angers et surtout comme à Madrid, il est toujours idolâtré, et que son fils spirituel ne tarissait pas d'éloges sur lui, un certain Zinedine Zidane. Raymond Coppa est au football ce que Rod Laver est au tennis, un virtuose. Et le talent de Gérard Berthelot est de proposer une bande dessinée hommage pleine de fougue avec un joli trait naïf et rétro. C'est chez Petit à Petit, vous pouvez foncer.
Et oui, surpris, non hein ? Vous voyez qu'entre les pages, on peut même mettre du sport. Et après cette chronique et cette émission consacrée spécialement à la BD, retour au roman. Et quel roman ! L'administrateur provisoire d'Alexandre Seurat, édité au Rouergue.
Emmanuel Baumann était né en Roumanie en février 1901. Aucun document n'indique quand il arrive en France. Il avait une entreprise d'appareils électriques. En juillet 1941, Raoul H. écrit « Race juive, nationalité roumaine, marié, père de deux enfants ». Il habitait dans le 11e arrondissement, un local en rez-de-chaussée, sur cour intérieure, constituant à la fois logement et atelier en peu de pièces. À l'adresse indiquée, un immeuble haussmannien se dresse aujourd'hui, avec au rez-de-chaussée une échoppe de bibelots d'argenterie. Un jour, il doit apposer l'affiche jaune sur la porte, entreprise juive. Maintenant, quand les gens entrent, ils regardent l'affiche, certains hochent la tête, d'autres n'ont aucune expression. Certaines personnes de l'immeuble voudraient que les enfants Baumann aillent jouer ailleurs. Mais où est-ce qu'il pourrait aller jouer ? Un autre jour arrive Raoul H. Il ne ressemble pas au client. Il est en costume sombre, il marche la tête haute, l'air grave. En entrant dans la cour intérieure, il a regardé à droite, à gauche, vers le haut de l'immeuble, comme s'il cherchait à inspecter toutes les fenêtres, comme s'il cherchait à scruter l'ombre jusqu'où le soleil tourne, là-haut. Les enfants d'Emmanuel Baumann, qui couraient, débouchent devant lui, s'arrêtent en haletant, le regarde en silence. Raoul H. ne bouge pas. Il les toise, puis on entend leur nom, crié par une voix inquiète. Et leur mère apparaît sur le seuil. Ils sont aussitôt effacés derrière elle, se sont glissés dans l'appartement. Elle s'essuie les mains sur son tablier, regarde Raoul H. Il enlève son chapeau, se présente, décline sa mission, son titre. Il demande Emmanuel Baumann. Elle se tourne sans rien dire vers la grande vitre qui donne sur l'atelier. À l'intérieur, Emmanuel Baumann s'est levé, le visage tendu. Raoul H. entre dans l'atelier, s'approche d'Emmanuel Baumann. En dehors, à travers la fenêtre, on ne voit que les visages d'Emmanuel Baumann et le dos de Raoul H., qui doit parler. Emmanuel Baumann ne bouge pas. Il écoute, légèrement penché, avec une expression soucieuse. Puis, Raoul H. s'avance, passe dans les autres pièces. Emmanuel Baumann le suit. Raoul H. pénètre dans la chambre. Deux enfants sont là, en silence. Leur mère a posé ses mains sur leurs épaules. Dans l'inventaire de juillet 1941, Raoul H. relève divers postes TSF en cours de montage, dont les pièces détachées représentent environ 30 000 francs. Emmanuel Baumann déclare avoir perdu beaucoup de marchandises évacuées lors de l'exode de 1940. C'est tout. Dans le dossier, il n'y a rien d'autre que ce rapport d'une page. Jusqu'à décembre 1941, date à laquelle Raoul H. indique qu'Emmanuel Baumann est, depuis quelque temps déjà, retenu au camp de concentration de Drancy. Il précise qu'un essai de faire marcher sa maison sans lui, grâce à un apprenti qu'il avait auparavant, s'était révélé infructueux et que tout travail était actuellement suspendu. Que Madame Baumann a même quitté avec ses deux enfants l'appartement qui leur servait à la fois de domicile et d'atelier, et qu'elle s'est réfugiée chez ses parents. Dans l'affaire Emmanuel Baumann, Raoul H. ne sait presque rien, n'a rien vu, rapporte ce qu'on raconte.
Merci Inès. Je voulais te dire que des auditeurs trouvent ce moment de lecture que tu nous offres à chaque émission plein de grâce. Vous avez pu entendre quelques mots d'Alexandre Seurat, mais vous pourrez l'entendre beaucoup plus longuement dans la rencontre que nous organisons le 15 janvier avec le non moins magnifique Thierry Froger. Avant de vous annoncer l'agenda, un peu de swing rock avec le groupe Tarmac Rodeo.
J'assure, la populace, ça je connais. J'ai parcouru sur talons hauts des kilomètres de pavés. Tu vas la voir ton rodéo, baratine-moi et je serai la diva.
Incontournable,
diva,
incontestable.
Diva,
assurément,
diva,
évidemment.
Partout où je me pavane, les billets tombent pour m'écouter. Dame, dans votre ville à ne pas rater. On n'est pas venu jusqu'ici comme qui dirait faire tapisserie. Viens tâter de mon pain rétro, la diva fait son rodéo.
Continue ton cirque, swing et chante et fais rêver. Chaque soir un nouveau public, une foule aux portes du cabaret. Yes, you are the lady. Et tant que ton charme ouvrira les porte-monnaies de tout Paris, sois sûr tu resteras la diva,
la toute puissante. Silence, c'est ma tournée. Range ta langue, c'est pour les grands. Avec Suzy, faut s'accrocher. Tarmac bombarde à coup sûr. Compte sur nous pour tenir la mesure. Viens tâter, c'est pas du faux. Dans ta rue, c'est rodéo.
Chante et fais rêver. Chaque soir un nouveau public, une foule aux portes du cabaret. Yes, you are the lady. Et tant que ton charme ouvrira les porte-monnaies du tout Paris, sois sûr tu resteras la diva.
Incontournable,
Radio G 101.5, c'est toujours entre les pages et vous avez entendu Tarmac Rodeo qui fait plus que déborder d'énergie. C'est la dernière page de ce huitième opus de votre émission qui parle du monde des livres en Anjou. Je vous rappelle deux prochains rendez-vous auxquels nous tenons.
Tout d'abord, n'oubliez pas l'enregistrement en public de l'émission qui sera diffusée le 1er janvier. Nous vous invitons. Non, pas dans n'importe quel lieu. Attention, suspense, ça se passera. Enfin bon, on l'a déjà dit la semaine dernière. Ça se passera dans le Lénine Café, sur l'île de Chalonne, le dimanche 22 décembre. C'est ce dimanche-là qui arrive. De 15h à 16h, nous aurons quelques invités de marque et nous visiterons avec Martine Toué la bibliothèque du Lénine Café. Il sera ouvert tout le dimanche 22 décembre et le midi, il servira son traditionnel repas russe. Vous pouvez dès à présent réserver au numéro suivant 06 34 15 04 27, 06 34 15 04 27. Et puis, notre deuxième émission de l'année 2020, qui sera diffusée le 15 janvier. Nous avons invité deux auteurs très importants, Alexandre Seurat, dont je viens de vous lire un extrait de « L'administrateur provisoire » édité au Rouergue, et Thierry Froget, l'auteur de deux superbes romans, « Sauf qui peut la Révolution » et « Les Nuits d'Ava », tous les deux publiés chez Actes Sud. C'est une discussion que nous les avons confiée sur le travail de l'écriture, mais aussi sur leurs sources d'inspiration et leurs modèles en littérature. Très important, un petit rappel, la revue Arfang, qui était notre invitée le 4 décembre, organise en partenariat avec la ville d'Angers le prix de la nouvelle d'Angers. Ce prix récompense les auteurs de nouvelles, et c'est assez exceptionnel, justement, puisque les recueils de nouvelles sont assez rares en France, comme on l'avait dit la dernière fois. Pour toutes les informations, vous avez qu'à aller sur le site de la revue, qui est nouvelle avec un S, arfang.blogspot.com. Les textes sont à envoyer entre le 1er et le 31 janvier 2020, alors à vos plumes. Au cours de cette émission, vous avez pu entendre « À force de solitude, j'ai acquis l'art de la mer », interprété par Jacques Bertin, et extrait de son tout nouvel album « Ce qui reste, ce qui vient ». Diva, du groupe Tarmac Rodeo, extrait de l'album plus qu'énergique Saltimbocque Prohibition. La chronique de Julien Verden s'est nichée dans les délicats arpèges du manège endormi du guitariste Jean-Paul Albert, accompagné du violoniste Yorick Troman, extrait de l'album enregistré en public en 2014. Et le générique de l'émission est toujours de Thilassine.
Vous retrouverez toutes les informations et tous les liens relatifs à cette émission sur la page de Entre les pages, sur le site de radioG.org, à la date de l'émission. Dans quelques instants, ce sera le journal de 18h de RFI, qui sera suivi par L'Oreille Curieuse, émission animée par Anne Lee. Inès Amat et moi-même vous souhaitons une excellente soirée et dès à présent de bonnes fêtes de fin d'année. Cette émission a pour ambition de vous faire aimer les livres. Alors, sous le sapin, n'hésitez pas et en cas d'hésitation, demandez à votre libraire, il sera toujours de bons conseils. Et maintenant, générique.
Yeah, okay, let's go.